Bonjour encore à ceux que je n'aurais pas salués au début de ce culte. Je me réjouis d'être au milieu de vous et je suis encouragé dans la prédication aussi par les prières qui sont montées vers Dieu tout à l'heure, où il a souvent été question de la parole de Dieu, question de la vérité. J'aimerais vous entretenir un peu ce matin d'une manière un peu particulière. Peut-être vous avez su que dans le courant de l'année passée, la faculté de théologie de Neuchâtel a été fermée. Et d'un côté, je me dis, c'était peut-être bien qu'une faculté qui était devenue si libérale soit fermée. Je sais de quoi je parle, j'y ai été durant 5 ans et demi. Mais quand même, c'est bizarre de penser que cette faculté qui a été créée en 1873 a été la faculté une des plus évangéliques de tout le monde francophone, au point qu'on s'arrache encore des livres aujourd'hui de Frédéric Godet par exemple, ou de Grotilla, qui se réimpriment, qui se vendent encore dans des instituts évangéliques ou dans des librairies. Et en fait, la question que nous devons nous poser, c'est finalement quelles en sont les causes. Alors les causes, bien sûr, c'est, j'en suis convaincu, le libéralisme qui a peu à peu vidé tant d'églises, en particulier réformées, à part celles qui demeurent évangéliques. C'est le cas où j'ai été pasteur pendant 24 ans, à Saint-Blaise-aux-Trives, cette église a 2 pasteurs encore évangéliques et il y a plus de 150 personnes au culte le dimanche matin. Donc là où la parole de Dieu est annoncée et vécue, il y a encore du monde, ça c'est sûr. Mais nous devons nous interroger sur les sources du libéralisme. Et les sources du libéralisme, en fait, c'est d'abord, du point de vue historique, c'est d'abord à cause de la science, d'une certaine science. C'est-à-dire que, et ça a commencé même avec Galilée, c'est-à-dire le procès de Galilée, c'est pas parce qu'il pensait que la Terre tournait autour du Soleil, tous les scientifiques de l'époque le pensaient, le pape aussi. Déjà les Grecs, Aristarque déjà, des centaines d'années avant Jésus, savait que la Terre tournait autour du Soleil. Le vrai problème avec Galilée, c'est qu'il a commencé de contester certains textes bibliques, tels que Josué, en disant, lui qui s'intéressait beaucoup à l'astronomie et à d'autres choses, c'est pas possible que Josué puisse arrêter le soleil, c'est tout simplement impensable. Et Galilée a été beaucoup plus condamné pour sa vision de l'écriture et de certains versets bibliques. Et je dirais que depuis ce temps-là, il y a une dérive qui a continué d'exister au nom d'une certaine science. Par exemple, plusieurs scientifiques étaient croyants, mais croyaient en un Dieu qui était le Dieu spirituel, en fait, plus les déistes que vraiment un Dieu qui intervient dans sa création. Or, nous pensons être très solides dans la foi, et je ne doute pas un instant que vous avez une confiance profonde dans la parole de Dieu, cela a été prié, et puis si je lisais des textes qui disent qu'il n'y a pas un seul iota qui sera supprimé de la parole de Dieu, je suis sûr que vous signeriez tous ce verset et cette déclaration. Et dans l'Apocalypse, il est dit aussi que si quelqu'un retranche quelque chose de cette parole ou ajoute, eh bien, il subira les fléaux qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Et pourtant, j'aimerais vous mettre un peu à l'épreuve. Pourquoi ? D'abord, en montrant que dans l'Écriture déjà, les apôtres que nous aimons, que nous citons, ont pris parfois une partie de l'Écriture et pas toute l'Écriture. Avant, bien sûr, vous me direz peut-être que le Saint-Esprit fasse son œuvre, c'est vrai aussi, mais je prends un ou deux exemples. Dans peu de temps, nous allons célébrer la fête des rameaux. Or, qu'est-ce qui se passe aux rameaux? Cette foule qui acclame Jésus, qui crie « Hosanna !» mais ce terme est déjà ambigu parce que Hosanna, ça veut dire sauve de grâce, mais ça veut aussi dire sauve maintenant. Et pourquoi cette foule, quelques jours plus tard, va crier crucifie-le, et ne pensons pas qu'il y avait parmi la foule que ceux qui vivaient relativement loin de Jésus et qui étaient enthousiasmés par les miracles qu'ils avaient vus. Il y avait aussi des disciples. En fait, pourquoi ce revirement? Si je reviens à l'apôtre Pierre, en Matthieu 16 par exemple, quand Jésus annonce très clairement sa mort et sa résurrection, Pierre prend à part Jésus et lui dit, mais Seigneur, excuse-moi, mais c'est pas possible, ça ne va pas t'arriver. Et pourtant, Jésus avait dit les choses clairement. Et puis les disciples d'Emmaüs, après ce que nous appelons la résurrection avec raison, ils repartent chez eux, déçus, écœurés, en disant, nous avions cru que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais voilà déjà plusieurs jours que les choses se sont passées, et en fait, ces mêmes disciples avaient clairement entendu Jésus annoncer sa mort et sa résurrection. En Matthieu 16, les choses sont très claires. Je vais souffrir à Jérusalem, je serai mis à mort, mais le troisième jour, je ressusciterai. Et voilà que nous nous posons la question, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je dirais bien sûr, quand Jésus a été malmené, frappé, ensanglanté, avant d'être mis sur la croix, on peut comprendre que ses disciples qui pensaient qu'il était tout puissant, qu'il a ressuscité des morts, il a guéri des aveugles, il a marché sur l'eau, mais en fait, ils avaient une vision de Jésus qui devait rétablir le royaume de David et qu'il devait chasser les Romains. Ils souffraient depuis des dizaines et dizaines d'années. D'abord, ils ont souffert sous Alexandre le Grand, mais ensuite, bien sûr, ils ont souffert sous les Romains. Et ils étaient convaincus que Jésus allait rétablir rapidement le royaume de David. Et c'est pourquoi même l'apôtre Pierre ne pouvait pas imaginer autre chose. Dans sa tête, c'était pas possible autrement. Donc, quand Jésus annonce sa mort, il s'arrête là et dit « c'est pas possible ». Il n'entend même pas qu'il va ressusciter. Et les disciples d'Emmaüs, c'est la même chose. Alors, on dira, bien sûr, il s'appuyait sur des paroles de l'Ancien Testament. Mais quelles paroles dans l'Ancien Testament? Tout d'abord, on pourrait prendre dans Ésaïe. Ésaïe, il a dit « oui ». Un enfant nous est né, Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'a rappelé il y a quelques semaines ou quelques mois, tout va très vite. Mais il est dit aussi, la souveraineté reposera sur ses épaules. Donc c'est bien d'un roi qu'il s'agit. Mais quand l'ange parle à Joseph, dans Matthieu 1, verset 21, l'ange dit à Joseph, littéralement, l'enfant qui va naître, qui vient de l'Esprit Saint, sauvera son peuple de son péché. Le salut, c'est clairement d'abord annoncé par rapport au péché. Il sauvera son peuple du péché. Alors il est vrai que l'ange dit à Marie que cet enfant qui va naître est celui qui rétablira aussi le royaume de David, mais un royaume éternel. Et vous voyez, quand on entend, quand on lit la parole de Dieu, il faut être sensible à tous les mots et pas seulement à ceux qui nous arrangent. Les disciples, pour la plupart, avaient saisi ce qui les arrangeait, c'est-à-dire que Jésus rétablirait le royaume de David. Et donc, quand il y avait un mot, une expression ou un verset qui allait dans un autre sens, ils ne pouvaient pas l'entendre. Ça ne faisait pas partie de leur vision du monde. Et cela doit nous faire réfléchir. Je pense que ça a entraîné l'apôtre Pierre jusque dans le reniement, de se dire c'est pas ce roi-là que j'attendais, c'est pas ce sauveur-là, c'est pas... Pourtant, Jésus a tellement parlé clairement du royaume. C'est vrai qu'il s'est approché, qu'il vient, qu'il est même au-dedans de vous. Mais il a aussi montré que ce royaume n'était pas pour ici-bas. Et il a attesté avec Pilate, même si tout, on le sait par la suite, à cause du Saint-Esprit qui révèle les choses. Mais Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, nous devons être attentifs, de se dire, voyons, comment je lis la parole de Dieu, avec quel arrière-plan, quelle vision du monde, qu'est-ce qui m'arrange, qu'est-ce qui ne m'arrange pas, qu'est-ce que je trouve vraiment bien, qui me fait du bien, et qu'est-ce qui me trouble, qu'est-ce qui m'inquiète, ou alors qu'est-ce que je n'entends tout simplement pas. Si je vais plus loin, il a dit, quand il a parlé du règne éternel, je dirais que ceux qui connaissaient bien l'Ancien Testament, et c'était le cas de plusieurs disciples, ils auraient peut-être dû se souvenir de Daniel, de la petite pierre qui se détache du ciel et qui vient frapper les royaumes de ce monde. Et se dire, alors ce Messie-là, c'est d'abord celui qui finalement va contester les royaumes de ce monde dans leur incrédulité, dans leur souveraineté charnelle, dans leur souveraineté matérielle. Mais cela, ils l'ont oublié. Et ils tenaient vraiment à dire, mais c'est lui qui devait rétablir le royaume de David. Et puis même, si on examinait tous les textes, même à la Pentecôte, l'apôtre Pierre, parce qu'alors, bon, ils ont saisi que Jésus s'en était allé, ça a été difficile pour eux, vous savez, très difficile. Parce que quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils étaient sûrs qu'il resterait avec eux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand il les appelle sur une montagne en Galilée, il réunit ses disciples sur cette montagne et il leur dit, c'est la fin de Matthieu, cette montagne, c'est pas la montagne de l'enlèvement, n'est-ce pas? C'est pas à Jérusalem, c'est en Galilée. Il leur dit, allez dans le monde entier, allez annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et puis Jésus, comme à son habitude depuis la résurrection, il disparaît. Jésus, à tout moment il arrivait, même il traversait les murs, mais il repartait. Et au point, quand il dit aux disciples, allez dans le monde entier, là ils disent, c'est super, je suis avec vous tous les jours, magnifique, et puis Jésus disparaît. Les disciples sont tellement troublés que ça ne correspond pas non plus à leur vision des choses. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, retournons prendre notre métier, retournons à notre barque, on ne comprend plus les choses. Et il a fallu, bien sûr, la visitation, la Pentecôte, mais même après Pentecôte, l'apôtre Pierre, vous pourriez relire cela, quand le premier discours de Pierre pour expliquer ce qui se passe à la Pentecôte, il va prendre des prophéties de Joël en disant, voilà, toutes ces choses arriveront, et vous verrez des signes dans le ciel qui vont arriver comme pour dire, nous sommes à la fin. Alors que Jésus, quand il a pris ce texte dans sa prédication à Nazareth, il s'est arrêté quand il dit « publier une année de grâce », il s'est arrêté là, et il n'a pas dit « un jour de jugement », pourtant c'est Jésus qui a annoncé le jugement, mais nous sommes dans cette année de grâce. Alors, je reviens à ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce risque d'avoir sa vision des choses, sa vision de l'Église, sa vision de la vie chrétienne, sa vision de la nation, sa vision du retour de Jésus. Peut-être certains ont su que l'an passé, un livre avait été écrit avec une annonce de l'enlèvement de l'Église pour le mois de septembre. Et je connais très bien ces pasteurs, très bien. Les bras m'en tombent. Je n'arrive pas à comprendre comment on pouvait annoncer l'enlèvement de l'Église avec une date au mois de septembre, alors que Jésus a dit, seul mon Père connaît le jour et l'heure de l'enlèvement, seul mon Père connaît. Comment des pasteurs sont arrivés à dire que eux ils savaient, voyez. Donc nous sommes, je dirais, très vite dans la séduction. Et la séduction, comme j'aime à le dire parfois, si vous allez bien comprendre, convaincu, si la séduction n'est pas la séduction, ce n'est pas la séduction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je vous dis ce matin, écoutez, c'est pas possible, Jésus n'est pas ressuscité, c'était impossible du point de vue scientifique, un cadavre trouve la vie après 3 jours, et cela a été démontré par ceci, vous allez dire, bon, ici en tout cas, bien sûr, je suis convaincu que vous allez dire, bon monsieur, passez votre chemin, ça, c'est pas de la séduction. Mais, quand l'erreur est tout près de la vérité, quand il s'agit de quelques mots, comme je viens de le dire, quand on prend une partie d'un verset plutôt que l'autre, quand on a sa vision des choses, sa vision du monde, à ce moment-là, on court le risque d'être séduit. Il est dit, prenez garde en Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Et là, je veux vous dire que c'est effectivement la philosophie qui a changé les choses et la science qui a changé les choses, au point que une partie des chrétiens sont déstabilisés. Et que finalement, on préfère son royaume vraiment à la souveraineté absolue et totale du Seigneur. Vous voyez, on a fêté Noël il n'y a pas longtemps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit un sauveur nous est né. Mais est-ce qu'on ose dire aussi un roi nous est né? C'est très différent. Vous direz, oui, c'est la même chose. C'est un roi sauveur. Mais dire, voilà, Jésus vient nous sauver. Il vient nous délivrer du péché, c'est vrai. Il vient nous donner la vie éternelle, c'est vrai. Mais vous voyez la différence en dire « Seigneur, viens nous sauver » un peu dans la ligne des apôtres qui disaient « Mais viens rétablir le royaume de David » et je dirais dans un sens, trop de chrétiens pensent que Jésus vient les bénir, vient les sauver, vient répondre à leurs prières, à leurs attentes, mais dans leur royaume. Alors que Noël, dans un sens, ça devrait presque être une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que désormais le roi, c'est Jésus. Et c'est très différent d'être ici en disant, je change de royaume, tu es mon roi, et qui dit roi dit serviteur, servante. Et l'apôtre Paul n'a même pas eu peur du terme en parlant même d'esclave. Et moi j'ai envie d'être esclave du roi des rois, de celui qui a donné sa vie pour moi. Et comprenez la différence fondamentale entre être ici dans son royaume, où on reste malgré tout le maître de sa vie, celui qui décide les choses, celui qui organise, qui arrange, en disant « Seigneur, viens nous bénir ». Et puis s'il ne bénit pas comme on imagine, on est déstabilisé. Quelle différence d'être ici, dire « J'ai changé de royaume et tu es mon roi et je veux te servir. Alors je veux que le travail de mes mains soit béni, que ma famille, que notre industrie, que notre commerce, que nos églises bien sûr, mais en tant que serviteur du roi des rois. C'est plus nous qui décidons les choses et puis demandons la bénédiction sur nos décisions, c'est nous qui cherchons la pensée de Dieu dans tout ce qu'on vit. Quoi que vous fassiez, faites tout comme pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Même dans vos loisirs, pas de problème. Mais c'est dans une communion et une soumission au roi des rois. Alors, si je continue, et là, je vais peut-être vous défier un peu. Je suis sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tous seraient d'accord de signer qu'il n'y a pas un seul iota, un seul trait de lettre, c'est le plus petit signe en hébreu qui disparaîtra de la parole, et que cette parole est éternelle, elle est vraie, elle vient du Fils de Dieu. Une sœur a prié tout à l'heure en disant c'est la parole qui a été faite chair. Et cette parole est la parole créatrice. Dans Jean, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait par cette parole. Alors si maintenant, j'arrive à Genèse 1, je peux vous dire que, hélas, 7 chrétiens évangéliques sur 10 au moins sont convaincus qu'il ne s'agit pas de jours, de 24 heures, mais de millions d'années. Et là, je vous le dis, j'ai des réactions, mais attendez, vous allez quand même pas nous dire que le monde s'est fait en 6 jours de 24 heures. Parce que nous avons des preuves. Et la preuve, c'est que l'évolution est juste. On nous l'enseigne, c'est incontestable. Les médias, dans nos écoles, les scientifiques nous ont montré que c'est incontestable. Et puis la preuve suprême, c'est les dinosaures. Ils sont éteints depuis 60 millions d'années et on sait comment ils ont disparu, probablement avec une météorite géante. Cela est incontestable. Et donc ça veut dire que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, il ne passera pas, on n'enlèvera pas un seul iota. Et là, pourquoi ? Parce que notre fondement est le fondement de tant de chrétiens qui, au nom de la science, ou en disant « je suis scientifique », c'est incontestable. Ils ne sont pas sur le fondement des apôtres et des prophètes et de la parole, ils sont sur le fondement philosophique de notre monde. Et ce fondement philosophique, il remonte à des centaines d'années avant Jésus, depuis Démocrite qui a dit « voilà, il n'y a que des atomes ». Et tout ce qui existe, le vivant comme le matériel, ce n'est qu'un arrangement des atomes. Et cela traverse tous les siècles dans ce qu'on appelle le matérialisme philosophique ou ontologique, s'il y a des philosophes au milieu de nous. Et ça veut dire que c'est sur ce fondement-là qu'on dit oui, la science a montré que, au point que, on ne mesure plus les conséquences de cela. Parce que certaines personnes, quand je donne des conférences, peut-être certains vous le savez déjà, mais je travaille dans le cadre d'un doctorat en sciences et foi à Aix-en-Provence, la faculté, je travaille ces choses depuis plus de 40 ans, mais certains me disent, qu'est-ce que ça change ? Mais ça change rien, que ça soit des millions d'années, ou 6 jours de 24 heures, qu'est-ce que ça change? Eh bien, moi, je vais vous dire ce que ça change. Ça veut dire que Adam et Ève ne seraient de toute façon pas les premiers humains, même si on peut imaginer que Dieu aurait mis son esprit dans ce couple, mais ça veut dire que la mort n'est plus le résultat de la chute et du péché. Ça veut dire qu'ils connaissaient la mort qui existait depuis des millions d'années. Donc, là, il faut enlever toute la théologie de Paul qui démontre que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par un seul homme, le nouvel Adam, la foi et le salut est entré dans le monde et qu'il y a une recréation et qu'on peut devenir des hommes et des femmes nouveaux recréés par la puissance de Christ. Nous sommes des êtres nouveaux du point de vue spirituel. Quelle gloire! Mais allons plus loin. Parce que, pourquoi est-ce que, historiquement parlant, on a passé des 6 jours qui étaient incontestables pendant des milliers d'années, pourquoi est-ce qu'on a passé aux périodes de millions d'années? C'est à cause de l'évolution. Parce qu'évidemment, si on admet que l'évolution part d'une seule cellule vivante pour arriver aux plantes, aux animaux et finalement aux humains, il faut des milliards d'années. Donc ça, c'est la thèse obligatoire de l'évolution. Mais qu'en est-il du déluge, chers amis? Or, le déluge, aujourd'hui, jusque dans les milieux évangéliques, et c'est ça mon souci, jusque dans certaines facultés de théologie évangélique, parce qu'on a admis que ce n'était pas 6 jours, mais des millions d'années, on est obligé, je vous le dis, obligé d'admettre que le déluge n'est pas universel. Parce que si le déluge est universel et qu'il reste que 8 personnes, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Or, comme on a admis qu'il fallait des millions et des millions d'années pour que tout puisse arriver, c'est pas possible, ça recommence au déluge, vous comprenez? Et c'est pourquoi il s'écrit maintenant, même dans des ouvrages évangéliques, que le déluge n'est que local et qu'il n'est pas universel. Et j'ai été effrayé l'année passée, c'est pourquoi je monte quelque part au créneau, effrayé quand mon épouse a commandé un livre à la Ligue pour la lecture de la Bible, pour les enfants, pour notre petit-fils de Paris qui a 6 ans. À la 2e page, qu'est-ce que je vois? Il est parlé du déluge et il a dit c'est une inondation locale. Et il y a même un dessin qui montre que c'est le Tigre et l'Euphrate qui de temps en temps créent une inondation là-bas. Il y a même un dessin. Chers amis, les choses sont graves. Les choses sont très graves. Et c'est pourquoi, avec 2 amis scientifiques, puis j'étais scientifique bien avant d'être théologien, eh bien, j'étais ingénieur en mécanique, nous avons donné des conférences à Nyon l'an passé. Et des conférences, c'est fait venir un ami qui est biologiste de renommée mondiale, André Hagen, et un autre ami qui est physicien nucléaire, directeur de recherche au centre de Marcoule en France, le centre nucléaire. Et moi j'ai donné aussi une conférence, mais quelle en était la situation? Dans une église évangélique de l'Afrique, un biologiste a donné une conférence pour démontrer l'évolution et pour démontrer qu'effectivement, il ne fallait pas prendre la Bible comme ça au pied de la lettre. Alors il y a eu quelques personnes qui ont réagi. Et le conseil de cette église, pourtant membre de l'AFRI, a vraiment malmené ceux qui ont réagi. Ils ont fait venir un autre conférencier théologien qui a redit les mêmes choses. Et un de mes amis, qui est membre de cette église, m'a téléphoné en disant « Est-ce que tu viendrais donner une conférence ?» J'ai dit « Écoute, c'est un biologiste qui a donné les conférences, il faut un biologiste pour répondre aussi. » Mais j'ai proposé André Hagen et puis cet ami physicien. Or, cette église, chers amis, a refusé de prêter la salle. Ça se passe en Suisse romande, chers amis. Et dans les milieux évangéliques, la situation est grave. J'ai commencé par dire que la faculté de Neuchâtel a d'abord été une faculté très évangélique, mais a ouvert la porte, à un moment donné, au libéralisme à partir de la science. Et c'est pourquoi elle a fini par devenir la faculté la plus libérale du monde francophone. On nous expliquait pendant des heures que Jésus n'était pas le Fils de Dieu et n'était pas ressuscité, ici à Neuchâtel, des amis. Mais quand je vois que dans des milieux évangéliques, on est en train de suivre le même chemin, et qu'on est en train de douter de la parole, et qu'on fait même dans la Ligue de la lecture pour la Bible, qui donne encore de très bonnes choses, pas de problème, mais qu'on peut dire que c'est un déluge local, chers amis, ça veut dire qu'il faut supprimer tous les premiers chapitres de la Bible. Il faut les supprimer. Et qu'est-ce que je dois dire à mes amis pygmées quand je vais dans la forêt, chez mes amis pygmées, quand je vais à Madagascar, où pour atteindre certains villages, il faut traverser des rivières à la nage, et je vois des personnes qui aiment la parole, qui apprennent à lire, pour pouvoir lire la parole de Dieu. Et je devrais leur dire, écoutez, ne lisez pas les premiers chapitres, vous n'y comprendrez rien du tout, ça ne veut surtout pas dire ça. Commencez par les psaumes, psaume 23, mais surtout, ne lisez pas ces choses, il n'y a rien de vrai dans tout cela. Est-ce que j'ai le courage de dire, est-ce que vous pensez que Dieu, dans sa toute puissance, par l'Esprit Saint, s'il avait créé sur des millions d'années, il l'aurait dit. Il n'y a pas de problème. S'il avait choisi de faire advenir les choses vivantes depuis les plantes, les animaux et les êtres humains au travers de l'évolution, il nous l'aurait dit. Pourquoi cette parole qui est la parole de la vérité, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Or, mon trouble, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, on comprend ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre, avec les disciples d'Emmaüs qui n'avaient peut-être pas toutes les lumières, mais qui tenaient à une vision du monde. Et au travers de cette vision du monde, ils ne peuvent pas recevoir les choses. Or, il y a un verset qui dit, dans 2 Thessaloniciens 2, les versets, je les lis ici, il est dit, parce que ils n'ont pas aimé la vérité, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Et là, dans cette ville où a lieu ces conférences, c'est l'Église catholique qui nous a prêté la salle, enfin qui la loue, vous voyez. Et cela fait réfléchir parce que ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu les a égarés. Ils ont été égarés dans le mensonge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, chers amis. C'est que quand on refuse vraiment la vérité, et là, ce qui me trouble, c'est qu'on peut amener toutes les preuves qu'on veut, qui attestent que le monde a été créé en 6 jours. Les plus grands scientifiques du monde, tels que M. Sanford, qui a inventé le canoagène, c'est-à-dire ce qui permet les OGM finalement, c'est un créationniste Juncker, et il est de renommée mondiale. Et il y en a tant d'autres qui sont dans tous les domaines de la biologie, de la physique, des mathématiques, qui disent, mais voilà scientifiquement pourquoi, eh bien je peux vous dire, ceux qui tiennent à leur interprétation de la Genèse, ils ne veulent même plus écouter. Ça ne les intéresse plus. Ils sont égarés. Et cela fait réfléchir. Alors, je veux proposer 2 choses. D'une part, il est vrai aussi, et cela est une constatation, peut-être pas chez vous, j'espère, mais qu'on ne lit presque plus la parole de Dieu. On n'a plus le temps. On lit par-ci par-là un verset, le verset du jour. J'ai rien contre. Moi, je les lis aussi. J'ai aussi un petit calendrier biblique avec le verset du jour qui correspond si souvent à notre situation parce que Dieu est Dieu. Et puis, pourquoi pas sur Internet prendre le verset du jour dans Dieu.com, etc. Pourquoi pas? Mais si vous vous limitez à lire de temps en temps un verset, serait-ce que chaque jour, vous n'allez plus être modelé par la parole de Dieu. Et de plus en plus, sans le vouloir, et même si vous dites « Jésus est mon roi », vous allez glisser ou revenir sur un autre fondement que le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire sur le fondement philosophique et scientifique qui a envahi toute la pensée de notre monde. Au lieu de dire « Mais comment ?» Demeurer ferme et solide, c'est par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est délaissée. Alors je vais dans les églises où je prêche de temps en temps, je propose 2 soirs pour vous redonner la passion de la parole de Dieu. Ces 2 soirs séparés par 1 mois pour que vous puissiez faire des exercices. Et s'il y a 5 personnes dans votre église qui seraient d'accord, qui aiment la parole de Dieu, qui aimeraient retrouver l'envie, j'ai développé depuis 35 ans une manière de faire où c'est passionnant chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu. Et j'aimerais vous transmettre cela. Donc, voilà, je n'en dis pas plus. Si une fois vous connaissez mon adresse, si 5 personnes étaient d'accord, de prendre une vieille Bible avec un crayon, c'est la seule condition, ou bien la Bible où vous osez encore mettre de temps en temps une petite référence, une petite note, j'aimerais vous montrer comment construire la connaissance de votre parole de Dieu au travers de la vie quotidienne. Ça, c'est pour la parole de Dieu, parce que On va retrouver confiance dans la parole dans la mesure où on va s'en imprégner, s'en nourrir, la méditer pour qu'elle devienne vraie dans nos vies. Et ça, j'aimerais vous le dire. Cette parole, je l'aime, je la sers, j'en suis à ma 3e ou 4e Bible. Et pourtant, j'ai pas plus de temps que vous, rassurez-vous. Peut-être même moins, mais je prends le temps pour la parole. Et ça veut dire que elle est vraie. Et je peux vous le dire, j'étais évolutionniste comme scientifique. Et dans les conférences dont je vais encore vous dire un mot, j'ai commencé par dire comment je suis devenu créationniste alors que j'étais évolutionniste. Je peux vous dire, depuis plusieurs années que je suis devenu créationniste, je ne terre, c'est-à-dire je crois à ces 6 jours de la création, je vois des prodiges et des miracles dans ma vie, parce qu'il est le Dieu créateur, il est le Dieu tout-puissant, il est le Seigneur qui a marché sur l'eau, qui a guéri des aveugles, il est le Seigneur qui a calmé la tempête, chers amis. Et ça, je vous l'ai dit ici, souvenez-vous, il y a peut-être 2 ans, quand il y a eu cette terrible tempête qui a balayé le littoral neuchâtelois, moi, quand la grêle commence de tomber en été, je l'arrête au nom de Jésus. Parce que j'ai compassion des vignerons et compassion des maraîchers et des agriculteurs. Et c'est arrivé plusieurs fois et la grêle s'est toujours arrêtée instantanément. Et quand il y a eu cette tempête qui a balayé le littoral à plus de 100 km/h, j'étais dans mon bureau où je voyais cette barre noire qui s'avançait. Et avec mon épouse, on a lutté dans la prière au nom de Jésus. Il a grêlé un peu à Saint-Blaise, c'est vrai, un peu. J'étais un peu déçu dans un sens, que ça ne s'arrête pas net. Mais on a continué de prier, et quand on est sorti, là où on loue un appartement, on a vu des feuilles par terre, mais rien de grave. Et le lendemain, je découvre dans les journaux et à la télévision le soir, des dégâts incroyables dans tout le littoral, avec des vignobles qui ont été assez menus. Et le lendemain, il y avait encore de la grêle dans des pharmacies, par exemple, il y avait une image. Il y a eu 86 blessés à la fête fédérale de gymnastique à Bienne. 3 jours après, un journaliste que je ne connais pas a écrit dans l'Express, miraculeusement, le vignoble de Saint-Blaise a été épargné. Miraculeusement, chers amis. Et les vignerons, ils savent que je prie pour cette région. Et comme si Dieu voulait souligner encore ces choses, qui a eu le premier prix du meilleur vin de Suisse cette année-là, c'est un vigneron de Saint-Blaise. Alors, chers amis, je peux vous le dire, oui, quand on croit à cette parole, que c'est pas seulement du passé, et que c'est pas seulement de l'avenir pour le retour de Jésus et l'établissement de son royaume, qui sera plus terrestre qu'on imagine, puisque les nations monteront à Jérusalem, à porter la gloire et l'honneur. J'ai prêché là-dessus il y a 2 ou 3 ans. Mais ça veut dire, chers amis, que cette parole, elle est vivante aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours par la puissance de l'Esprit-Saint, mais tout pouvoir m'a été donné. Il ne s'agit pas de faire des miracles pour épater les gens, mais de croire à la puissance de Dieu. De croire que celui qui a créé en un instant, en 6 jours, celui qui a multiplié les pains et les poissons, et c'est une création soudaine, il a aussi cette puissance dans nos vies, mais aussi, j'allais dire, priez pour vos voisins, priez pour l'industrie, priez pour notre cité. Et si quelqu'un partage une souffrance par rapport à ses enfants ou dans sa santé, même s'il n'est pas chrétien, s'il ne croit en rien du tout, proposez-lui de prier pour lui. Vous n'allez pas proclamer « Tu es guéri, lève-toi ». Si le Saint-Esprit vous le montre, faites-le. Mais vous allez par compassion prier, même dans des endroits un peu particuliers. Vous allez prier pour eux et Dieu va agir. Et il agit plus, j'allais dire, en dehors de l'Église, parce qu'il aimerait que sa parole soit attestée, parce que ce sont des signes du royaume. Le royaume n'est pas encore ici. Ce sont des signes du royaume et il faut les dresser. Alors, je termine en faisant, je fais de la publicité, c'est pas grave, mais de ces conférences, il y a 5 DVD. Et j'aimerais vous encourager de prendre peut-être du temps dans les mois qui viennent de regarder. Parce que pour expliquer les choses le plus simplement possible, il faut du temps. Il faut du temps, c'est pourquoi on a fait 5 conférences. Le biologiste en a donné 3, mon ami physicien 1 et moi 1. Or, je peux vous laisser, je ne vends rien ce matin, rassurez-vous. Mais si quelqu'un voulait avoir ces 5 DVD, ils sont au prix de 50 francs, ce qui n'est pas énorme pour 5 DVD d'1h20 chacun. Et puis vous pourriez les regarder, même à quelques-uns ou seuls, et je reviens au mois de novembre, si vous voulez, ou décembre, pour essayer de répondre à vos questions. Voilà. Donc, je vous propose quelque chose sur la parole de Dieu, retrouver le feu de la parole de Dieu, de vraiment dire, oui, je vais ouvrir cette parole, je vais mourir, et puis j'ai une manière de travailler qui n'empêche pas les vôtres, mais qui rend la parole passionnante et qui nous fait du bien, qui vraiment d'un Seigneur vivant, et puis aussi sur le plan, je dirais, scientifique et philosophique, eh bien, je vous fais aussi une offre. Mais je termine en disant, cette parole est vivante. Cette parole est vivante, elle est éternelle. Et c'est une parole qui nous bénit, chers amis. Il a dit, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Combien de personnes luttent contre le péché et sont découragées? Ils luttent contre des travers, contre la convoitise, contre toutes sortes de choses, contre l'aigreur de leur cœur, contre leur colère, contre toutes sortes de personnes, etc. Ou bien leur propre colère, ou leur défaut de caractère, comme on dit. Ils luttent, et ils n'y arrivent pas. Et le Seigneur dit, ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. C'est la sanctification dans l'Ancien Testament, il faut se sanctifier soi-même, jusqu'aux habits. Dans le Nouveau Testament, c'est trop compliqué. Le Seigneur dit, je m'en occupe. Aimez ma parole, aimez-moi, aimez cette parole, moi je vais vous sanctifier, chers amis. C'est le travail du Seigneur, mais pour cela, il faut le fréquenter dans sa parole. La parole a été faite chair, chers amis. Jésus est la parole de Dieu. Comment pourrions-nous dire, j'aime le Seigneur et je ne lis jamais ses lettres? J'aime Dieu, mais je ne lis pas ce qu'il a écrit. C'est impensable. Et pourtant c'est pensable, malheureusement. Jésus est la parole de Dieu, une parole qui nous bénit, qui nous transforme, qui nous aide à être établis sur le fondement des prophètes et des apôtres, qui nous bénit, qui nous renouvelle. Il a même été dit ou chanté, c'est même un renouvellement pour nos muscles et même pour nos os, chers amis. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, une puissance de vie pour nous et pour les autres. Soyez bénis, chers amis. Amen.